Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 14 mai, Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la médaille de la Discorde, en annonçant hier le retour d'une médaille du 19e siècle. En hommage aux héros de la lutte contre les épidémies, le gouvernement provoque la colère des soignants qui attendent toujours le versement d'une prime et réclame surtout un plan d'envergure pour l'hôpital. On voit ça avec vous Agnès, en détail après les autres titres.
Un plan d'envergure, c'est aussi ce que demandent les professionnels du tourisme, réunion ce matin à Matignon. La rentrée des écoliers dans les grandes villes, gel hydroalcoolique dans les cartables. Le geste du gouvernement italien qui va régulariser des centaines de milliers de travailleurs clandestins. Et la nostalgie déjà des co-confinés heureux.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50 Léa.
Comment concilier reprise économique et impératif écologique? Faut-il imposer des contreparties à des entreprises déjà exsangues? Ce sont les questions qui se posent aujourd'hui au gouvernement. On les pose également à l'ex-ministre de l'écologie. Ségolène Royal, ça avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, dans le grand entretien de la matinale, deux invités ce matin, Anne-Laure Kichel, qui a travaillé pour le gouvernement grec d'Alexis Tsipras et qui fait aujourd'hui du conseil aux États. Deuxième invité, Éric Heyer, le directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. On va parler, vous l'avez compris, économie. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. Il y a eu l'hommage populaire et spontané sous forme d'applaudissements tous les soirs à 20h. Il y a eu l'annonce d'une prime de 500 à 1500 euros qui sera versée en mai ou plus sûrement en juin. Il y a le souhait d'Emmanuel Macron d'associer les soignants aux cérémonies du 14 juillet. Et puis il y a cette proposition d'une médaille de l'engagement pour récompenser ceux qui se sont dévoués pendant la crise du Covid-19. L'idée, retenue par le gouvernement, a germé dans la tête du député LR de la Manche, Philippe Gosselin.
C'est une vieille médaille qui est le fruit de l'histoire. Elle avait été instaurée par un décret de 1885 quand il y avait eu une grave crise d'épidémie de choléra partout en France l'année précédente en 1884 et il y avait eu vraiment beaucoup de dévouement, un peu comme aujourd'hui, hein, des soignants, d'autres catégories de personnel, et l'État s'était dit qu'il y avait là une belle façon de reconnaître les mérites des uns et des autres. Tout ça peut paraître très secondaire, mais c'est une façon pour la nation de montrer sa déférence, de montrer sa reconnaissance, effectivement.
Un propos recueilli par Maxence Lambrecq. Pas de médaille, nous avons fait notre travail, mais des moyens supplémentaires. C'est la réaction des soignants. Agnès Hartmann est diabétologue à la Pitié-Salpêtrière. Elle répond à Daniel Messager.
On est ulcéré. On attend depuis des mois une reconnaissance salariale pour tous les métiers de l'hôpital. Olivier Véran, le 15 avril, avait dit « À cette prime exceptionnelle succédera la réflexion sur la revalorisation des métiers et des rémunérations. » Et là, qu'est-ce qu'on nous annonce? Qu'on va défiler sur les Champs-Élysées avec les militaires, des médailles, mais on veut pas de médailles. On prend ça comme une claque. Je parle rarement comme ça, mais franchement, là, c'est du foutage de gueule, quoi. Le plan massif pour l'hôpital et la reconnaissance des métiers, on l'a pas du tout sur ces annonces. Faut arrêter ça, c'est insupportable.
Cette colère, cette volonté de corriger les inégalités, de construire un monde plus juste et plus vert, on les retrouve dans la tribune publiée dans 7 grands médias, dont France Inter. Parmi les signataires, le communiste Yann Brossard, Raphaël Glucksmann de Place Publique ou encore l'écologiste Yannick Jadot. En fait, à l'exception du NPA et de la France Insoumise, c'est tout l'éventail de la gauche sociale et écologiste qui est représenté. Laurence Perron.
Il est assez savoureux de voir les noms d'anciens fondeurs côtoyer ceux de ministres des gouvernements Valls ou Cécile Duflot, pas loin de Yannick Jadot. Si l'idée est bien à terme de construire les conditions d'une victoire de la gauche en 2022, il n'est pas question de refaire à ce stade le programme commun, mais plutôt de poser des principes forts pour l'après-crise. Une première salve contre, je cite, l'impasse des politiques dominantes depuis 40 ans et le capitalisme financier. Les signataires réclament, entre autres, la mise en place d'un état d'urgence sociale, le retrait de la réforme de l'assurance chômage. Ce serait, je cite encore, une faute historique de la maintenir. La mise en œuvre accélérée de la transition écologique avec notamment une prime climat pour sortir les plus pauvres de la précarité énergétique, le retour de l'ISF encore ou une contribution anti-crise des citoyens les plus aisés. Enfin, une sixième république où le pouvoir ne serait plus aussi vertical parce qu'écrivent encore les signataires, il est impératif de ne pas confier la sortie de crise à un sauveur suprême ou au pouvoir de la technocratie.
Et cette tribune des personnalités de gauche est à lire sur franceinter.fr.
Il est 7h05, Agnès, un plan pour sauver le tourisme.
C'est ce qu'espèrent les professionnels à l'issue du comité interministériel qui se tient ce matin à Matignon. Tous attendent un calendrier précis de la reprise d'activité. Les restaurateurs demandent demandent de leur côté une baisse de la TVA de 10 à 5,5%. Quelques signaux sont déjà passés au vert, la réouverture progressive des plages et les locations touristiques de nouveau autorisées en Ardèche hier. Reportage de François Breton.
Depuis le début de la semaine, les consignes étaient contradictoires en Ardèche à cause d'interprétations différentes d'un décret ministériel. Mais hier après-midi, la préfète a clarifié la situation. Les locations de meublés peuvent reprendre. Un soulagement pour Corinne Oudoyer, la présidente des Gîtes de France en Ardèche.
C'était quelque chose qu'on attendait depuis un moment, puisqu'effectivement, depuis le début de la semaine, on savait que les locations étaient à nouveau possibles dans d'autres départements proches de chez nous. C'est vrai qu'on était en attente de différentes réponses et donc là, c'est clair, c'est net, c'est très satisfaisant.
Dans son communiqué, la préfète explique que tous les logements meublés peuvent être loués. Cela veut dire, en théorie, les mobil-homes. Mais en réalité, les campings vont rester fermés. Les consignes sanitaires pour ouvrir sont inconnues, explique Catherine Chevalier, la présidente pour l'Ardèche de la Fédération de l'hôtellerie de plein air.
Dans un premier temps, c'est ces réponses qu'on va attendre. Savoir ce qu'il nous faudra faire pour être ouvert. Ouvrir sans connaître les conditions et le protocole sanitaire, je trouve que ça ne serait pas raisonnable pour des chefs d'entreprise.
Un comité interministériel du tourisme doit se tenir aujourd'hui pour définir ce protocole sanitaire. Les campings attendent aussi un texte de la préfète plus officiel qu'un communiqué de presse pour rouvrir.
Reportage de François Breton de France Bleu, Drôme Ardèche. Un tourisme pour l'heure au périmètre réduit, impossible de s'éloigner de plus de 100 km de son domicile. Et pourtant, la sécurité routière s'inquiète de la hausse des très grands excès de vitesse. Les dépassements de plus de 50 km/h ont ainsi augmenté de 35% lors de la deuxième quinzaine d'avril. À Paris ou encore Lyon et Lille, c'est l'heure du retour en classe ce matin pour environ un quart des écoliers du primaire. Et dans la capitale, Alexis Morel, 28 000 enfants vont ainsi retrouver ce matin le chemin de l'école.
9 écoles sur 10 ouvertes, la moitié des enseignants présents et près d'un quart des écoliers accueillis au cours de la première semaine. Voilà la promesse de l'éducation nationale pour Paris. C'est plus que les 15% annoncés par la mairie il y a 10 jours, ce qui avait d'ailleurs fait tiquer le ministre. Pour autant, une partie de ces élèves ne viendront que la moitié de la semaine et dans certaines écoles, au-delà des publics prioritaires, seuls quelques enfants pourront revenir, alors que la demande est parfois assez importante, notamment dans les quartiers plus favorisés. Nicolas Wallet est directeur d'école dans le 5e arrondissement et représentant SNUIPP.
J'ai environ 50% des parents qui ont souhaité remettre leur enfant à l'école. Après, la contrainte qui est liée au protocole sanitaire fait qu'on a des groupes très restreints, hein, ce qui fait que même en ayant l'ensemble du personnel présent, ça fait une petite quinzaine d'élèves qu'on peut accueillir. Hein. Et donc forcément, ça ne répond pas à ce que souhaiteraient les parents. J'ai eu à peu près la moitié des parents à qui j'ai dû dire que ça ne serait pas possible d'accueillir leur enfant. Au-delà des publics prioritaires, ça concerne très très peu d'enfants. En ce qui me concerne, ça sera 6 enfants qui viendront à mi-temps.
Le rectorat de Paris évoque un deuxième palier à partir du 25 mai avec potentiellement bien plus d'élèves accueillis. Une montée en puissance difficilement envisageable selon les syndicats.
Sur les murs des écoles, la devanture des magasins, les portes des bureaux, de nouveaux autocollants fait leur apparition pour rappeler les gestes barrières, toute une signalétique qui n'existait pas. EG Concept, une jeune entreprise de fabrication de stickers professionnels basée à Ménil-Raoul près de Rouen en Seine-Maritime, s'est ainsi lancée depuis le mois de mars dans les stickers distanciation physique spécial Covid. Et ça marche, Julie Pirétier.
Quand le confinement débute, Guillaume Ebéhir voit toutes ses commandes repoussées. Fixer des stickers publicitaires sur des vitrines ou sur des camionnettes, ses clients préfèrent attendre. Alors, d'abord, pour occuper le temps, le patron de l'entreprise EG Concept décide de fournir gratuitement des autocollants pour les pharmacies et cabinets médicaux alentours. Un jour, il passe devant une grande surface, propose ses services et décroche une première commande.
Tout de suite, il nous a enclenché une commande de 1000 stickers. Voilà, il y avait vraiment besoin d'un produit professionnel, quelque chose qui tenait au sol durablement en fait. Voilà, aussi bien du petit artisan qui veut juste 3 stickers pour mettre devant ses caisses que de la grande distribution où on en étale des dizaines devant les boucheries, devant les primeurs, du sens de circulation avec du fléchage parce que ça réellement il y avait une demande aussi. On a une demande d'entreprises complètement différentes.
Des autocollants en vinyle donc, mais aussi des poteaux, des chaînes. L'entreprise a fourni ces dernières semaines des dizaines de magasins dont la boutique de chaussures de Florian à Rouen.
Sens de circulation, à sens unique, une file d'attente. Bien évidemment, notre boutique a un autre visage et je me mets à la place des clients. Il y a cette appréhension comment les autres consommateurs vont se comporter à mes côtés. Je pense vraiment que ça rassure. C'était à la fois indispensable et nécessaire.
L'entreprise qui, au début du confinement, pensait ne pas survivre à la crise, assure aujourd'hui des commandes partout en France et jusqu'en Belgique.
Reportage de Julie Pietri et selon les chiffres de Bercy, 400 000 commerces sont rouverts depuis le début de la semaine. Bretagne. Signe également que les comportements changent, le développement de la télémédecine, une nouvelle habitude qui pourrait permettre de réduire de 300 à 500 000 le nombre de déplacements quotidiens pour des raisons de santé en Île-de-France. Selon l'étude publiée aujourd'hui par l'Institut Paris Région, 15 à 25% des consultations physiques pourraient ainsi basculer dans la téléconsultation.
Il est 7h10, l'Italie va régulariser des centaines de milliers de travailleurs clandestins.
Des hommes et des femmes venus d'Afrique, de Bulgarie, de Roumanie pour récolter des fruits ou s'occuper des personnes âgées, mal payées, mal logées. Ils se retrouvent particulièrement démunis en cette période de crise sanitaire. Le gouvernement a donc décidé de faire un geste. Correspondance à Rome de Bruce de Gelsin.
Entre les travailleurs agricoles et les aides à domicile, le nombre de sans-papiers est estimé à 600 000. Les régularisations pourraient donc être massives pour ces travailleurs au noir, absolument pas protégés en ce moment. Et c'était le combat de la ministre de l'Agriculture, Teresa Bellanova, sur la radio Rai Uno.
Aujourd'hui, la dignité a gagné. La dignité des hommes et des femmes qui vivent dans des conditions très difficiles et qui désormais pourront demander une protection sociale et une reconnaissance de leur travail.
Les aides à domicile devront présenter un contrat de travail. Les saisonniers agricoles obtiendront, eux, un permis de séjour de 6 mois pour trouver du travail légal et ainsi lutter contre l'exploitation de certains mafieux qui les réduisent en esclavage, selon les mots de la ministre. Le patron de la Ligue, Matteo Salvini, s'oppose à ces régularisations.
Aucune amnistie généralisée pour les centaines de milliers de migrants illégaux. Il faut que reviennent en Italie les immigrés qui ont déjà travaillé avec des documents en règle et que l'on propose du travail aux millions de chômeurs italiens.
Et Matteo Salvini prédit une nouvelle vague de migrants sur les côtes italiennes. Rome, Bruce de Gelsin, France Inter.
L'Italie qui compte 51 morts pour 100 000 habitants, c'est plus que la France, 41 morts pour 100 000 habitants, mais moins que la Belgique, pays qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 76 décès pour 100 000 habitants. Enfin, au quatrième jour du déconfinement, certains sont déjà un peu nostalgiques du confinement, ce temps suspendu où ils avaient le temps de prendre le temps. On pourrait les appeler les co-confinés. C'est le grand format de cette édition. Et il est signé Sébastien Sabiron.
Pour Jean-François, le confinement a presque été une bouée de sauvetage. Kinésithérapeute dans le Bas-Rhin, il travaillait plus de 60 heures par semaine.
J'étais physiquement, psychologiquement complètement rincé avant le confinement. Le fait d'avoir arrêté brutalement mon activité parce qu'il n'y avait pas de choix, ça m'a permis peut-être d'éviter vraiment le gros burn-out.
Et de se recentrer sur l'essentiel, son épouse, assistante hospitalière à qui il prépare de bons petits plats, et son fils de 6 ans et demi.
Là, j'ai pu passer des moments formidables pendant ce confinement. On a fait des expériences, on a fait du jeu, on a fait aussi l'école à la maison et avec son instit. J'ai vraiment redécouvert mon rôle de père.
Depuis lundi, Jean-François a retrouvé quelques patients, mais pas au même rythme qu'avant.
Je travaillerai plus le mercredi, ça c'est sûr, hein, de manière à pouvoir passer du temps en famille. Il y aura 2 jours dans la semaine où j'emmènerai mon fils à l'école, ça m'évitera de partir à 6h du mat et à retomber dans mes travers d'avant.
Déjà nostalgique du confinement, Pierre, parisien de 22 ans, a découvert le cocooning pour la première fois de sa vie.
Je suis pas du tout casanier, hein. D'habitude je suis tout le temps dans les bars, dans les restaurants, à aller voir des expositions, des pièces de théâtre, des cinémas, et là en fait je me suis rendu compte que ça faisait du bien d'être chez soi. J'aurais jamais pensé dire ça avant, mais ça a quelque chose de sécurisant.
Au-delà du virus, c'est surtout le retour fracassant du monde d'avant qu'il redoute.
Moi, j'habite dans le centre de Paris, donc pendant toute la période de confinement, il n'y a pas eu de klaxons, il n'y a pas eu de bouchons. Et là, en fait, depuis dimanche, bah, c'est revenu et c'est le truc, je pense, qui est le plus gênant de ce déconfinement pour l'instant, en tout cas.
Et même s'ils ont apprécié cette parenthèse confinée, Pierre, comme Jean-François, apprécient tout autant d'avoir pu revoir leurs amis depuis lundi.
Co-confiné, heureux ou joyeux, déconfiné ou les deux, pourquoi pas.
Merci Agnès. C'était le journal d'Agnès Soubiran.